Chapitre 34e. Où l'on voit les héros monter à l'assaut hardiment et descendre promptement.
Tiens, dit le pêcheur au Gascon, nous arrivons au bon moment. Voici Roland qui dresse son échelle contre la muraille.
Quelle échelle? 150 échelons au moins.
Bon. Guéferos et Don Bernard de Carpio l'ont aperçu. Ils accourent. Ils prennent le haut de l'échelle pour l'acheter dans le fossé.
Ah, la bonne culbute que Roland va faire. J'en ai le cœur tout réjoui.
Nous allons voir si les os sont plus durs que le rocher.
Ah, l'archevêque Turpin et Olivier veulent monter derrière lui.
Il leur fait signe de rester en bas et de tenir l'échelle.
Pour un héros, ce n'est pas trop bête.
Il met le pied sur le premier échelon. Il monte. Une, deux, une, deux, une, deux.
Par les dents du prophète. Voilà un hardi gaillard. On dirait qu'il est à la parade.
Comme il est ferme sur ses reins.
Guéferos ne dit rien.
Et Don Bernard de Carpio attend.
Que signifie ceci?
Ah, je comprends. Ils veulent le jeter de plus haut.
Très bien pensé, mes seigneurs.
Une, deux, une, deux.
Ah ah! Il n'y a plus que 12 échelons à monter.
11, 10, 9, 8, 7.
Secoue donc l'échelle, imbécile.
6.
Bon, il balance l'échelle.
5, 4.
Roland va lever la jambe et mettre le pied sur le créneau.
Patatras, voilà le héros à bas.
Ah, le brigand,
il a vu le coup et il a saisi le créneau des deux mains.
Il a du sang-froid, le gaillard.
Oui, mais Guéferos lève sur lui sa hache et Don Bernard de Carpio sa masse d'armes. Que va-t-il faire?
Il a les deux mains embarrassées.
Par le saint nom de la Kaaba, son crâne va faire une dure expérience.
Allons.
Boum, ils ont frappé tous deux en même temps.
Roland est à bas.
Il a roulé dans le fossé.
Quel coup, il doit être en miettes.
Pauvre Roland, dit Rimbaud, attendri. C'était le plus brave chevalier de l'univers.
Qu'est-ce que je vois?
Reprit Ali. Il n'est pas mort, il se relève, il se tâte.
Bon, tous les os sont à leur place.
Quels os?
Il faut que le fils de sa mère soit fait de diamants.
Ah, je comprends. Il s'est vu perdu. Et quand ils ont frappé, il a fait le plongeon.
Guéferos et le Matamoro se donnent des poignées de main.
Oui, oui. Félicitez-vous, mes amis. Rira bien qui rira le dernier.
Comment? Il recommence?
Oh, c'est trop fort.
Mais que font donc ces deux armées au lieu de se massacrer comme il faut?
Elles font comme toi et moi. Elles regardent le combat,
dit le Gascon. Sais-tu qu'un spectacle comme celui-là ne se voit pas deux fois en un siècle?
On apporte une seconde échelle,
continue Ali.
La première est rompue en trois morceaux.
Accroche-la au créneau solidement,
bien.
Celle-ci est en fer, et moins facile à briser.
Une, deux, une, deux, une, deux.
Je veux qu'Eblis, le roi des mauvais génies, m'emporte dans son royaume sombre, si je comprends l'entêtement de ce brave homme.
Ah,
il insulte Guéferos. Bien trouvé.
Il reproche Matamor sa lâcheté.
Bonne idée, c'est assez ingénieux.
Il les défie tous deux ensemble.
Bon. Les deux autres se consultent.
Ils vont céder à la gloriole.
Non.
Guéferos prend l'un des montants de l'échelle et va l'acheter dans le fossé.
Mon pauvre Roland, prépare-toi, tu vas dégringoler.
Tiens, Don Bernard de Carpio retient l'échelle.
Il fait signe à Guéferos qu'il répond de tout.
Qu'il est sûr du succès.
Grand fanfaron.
Une, deux, une, deux.
Il touche au créneau.
Il met le pied sur le parapet.
Il saute, il est debout.
Les deux autres s'écartent.
Il tire du randal.
Guéferos et le Carpio se jettent sur lui.
Que vois-je?
Guéferos lui porte un coup de pointe. Manqué.
Guéferos s'est fendu à fond.
Il veut se relever. Son pied glisse.
Il tombe et laisse échapper son épée.
Bravo!
Roland le saisit dans ses bras.
Guéferos veut se dégager, mais il n'est pas de force.
Le Matamoro est bien empêché.
Il veut frapper Roland, mais Roland se fait un bouclier de Guéferos.
Diable!
Le pauvre prince n'est pas à son aise.
Le comte d'Angers le serre de façon à lui faire rendre l'âme.
Est-ce que ce combat ne finira pas?
Eh, jette-le par-dessus le parapet, dans le fossé, et fais face à Don Bernard de Carpio, ou nous allons rester là jusqu'à la nuit.
Bon, il m'a deviné.
Une, deux, trois,
le voilà dans le fossé.
Qui est dans le fossé?
Demanda Rimbaud.
Tu as pris la meilleure place pour bien voir.
C'est Guéferos, répondit Ali.
Oh! Il est endommagé.
L'eau du fossé a pourtant amorti la chute.
Quel saut! Plus de 100 pieds.
Roland n'y va pas de main morte.
Maintenant, les chances sont égales. À toi, don Bernard de Carpio, petit-fils de don Pélage. Soutiens le renom de ta race et coupe-moi en deux ce paladin.
Le fer croise le fer, et du choc jaillissent des étincelles. De fiers gaillards sur ma parole.
Je serais bien embarrassé de donner la palme à l'un des deux.
Quelles épées, quelles armures,
belle bataille. L'Hidalgo n'est pas maladroit, il part très bien les coups.
Oh, il a de l'expérience. C'est égal, je parie pour Roland.
Il ne fait pas tant de feintes, mais il y va de bon cœur, et un coup n'attend pas l'autre.
Quel coup !
Je crois que nous touchons la fin.
L'Hidalgo devient furieux, il perd son sang-froid, il frappe au hasard.
Mauvais, mauvais.
Il perd la tête. Ah, il a touché Roland.
Au cœur ?
Demanda Rimbaud.
Non, à la cuisse. Le sang coule, je crois. Roland est furieux. Il le presse, il le frappe, il veut l'exterminer.
Ah, enfin.
Don Bernard de Carpio est à terre. Roland délace son casque et lui parle. Sans doute, il lui offre la vie.
L'entêté refuse et essaye de le poignarder.
Oh, ce n'est pas loyal.
Roland apparaît le coup.
À ma foi, c'est fini. Le Carpio va rejoindre le Guéférose dans la patrie des grenouilles.
Comme il l'a lancé avec grâce dans le fossé, voilà un homme.
La pièce est jouée, dit le Gascon, nous pouvons descendre.
Au même instant, de toutes parts, des milliers d'échelles étaient appliquées au mur de Grenade, et les chrétiens, guidés par Olivier et par l'archevêque Turpin, entraient dans la ville. Les habitants, consternés du sort de leur chef, se jetaient à genoux, sans armes, et demandaient grâce. Roland, entré le premier dans la place, se hâta de les rassurer et courut au palais de Doralis. Mais on l'avait prévenu.
« Qu'allons-nous faire ? » dit le poète au pêcheur de truites quand il vit la victoire décidée.
« Moi, dit Ali, je vais tenir la parole que je me suis donnée à moi-même d'embrasser la belle Doralis. »
« Guéferos n'y est plus.
Roland va venir. C'est un entracte dont je veux profiter. »
Là-dessus, et sans délibérer davantage, il entra dans le palais de l'air d'un roi légitime qui revient dans ses états après 20 ans d'absence. La frayeur et le désordre étaient au comble. Le bruit de la mort de Guéferos et de don Bernard de Carpio s'était déjà répandu, et les serviteurs du palais s'enfuyaient pour la plupart en pillant les objets précieux. 3 ou 4 à peine, restés fidèles à Doralis, défendaient, le sabre à la main, la porte de ses appartements. En ce moment, Ali parut, suivi du Gascon, et demanda à voir Doralis. Il avait, disait-il, une mission à remplir de la part du comte d'Angers. Les serviteurs de la reine, voyant 2 hommes désarmés, les laissèrent sur l'ordre de Doralis pénétrer à l'intérieur. Rimbaud s'arrêta dans l'antichambre, cherchant partout Églantine, et le pêcheur de truites, tout couvert de poussière et les habits déchirés par les ronces auxquels il s'était accroché en escaladant le rempart, se trouva seul avec Doralis. « C'est Roland qui vous envoie ? » demanda-t-elle un peu inquiète.
« Madame, répondit Ali, je suis pêcheur de truites et philosophe. Grenade est prise. Votre frère Guéferos vient d'être jeté du haut du rempart dans le fossé.
Roland cherche partout Corisande.
Don Bernard de Carpio a suivi le même chemin que don Guéferos.
J'ai fait, il y a 10 ans, le serment d'embrasser une reine avant de mourir. L'occasion est bonne aujourd'hui. J'espère que vous ne me refuserez pas cet honneur.
Qui donc es-tu ? Demanda Doralis, qui crut avoir affaire à un fou.
« Je suis Ali, le pêcheur de truites, et je vous aime, » dit le philosophe en étendant les bras.
Cette réponse ne rassura pas beaucoup la pauvre reine. Elle repoussa violemment Ali et voulut se précipiter vers la porte. Mais le philosophe la prévint et se jeta à genoux.
« Je vous aime, » s'écria-t-il, « et je vous offre ma vie. Ne méprisez pas cette offre. Le plus grand seigneur et le chevalier le plus illustre ne saurait vous donner davantage. Un homme vaut un homme et un... »
Il aurait continué ce discours philosophique sur l'égalité des hommes et l'inégalité des conditions, par malheur, Doralis, qui se mourait de peur en se voyant à la merci d'un inconnu déguenillé et qui craignait d'être prise d'assaut comme Grenade, se mit à pousser des cris aigus. À ce signal, les serviteurs accoururent et le pauvre Ali fut emmené hors de l'appartement et menacé du pal. Heureusement, le tumulte et les cris redoublèrent, et les serviteurs de Doralis, inquiets pour leur maîtresse et pour eux-mêmes, laissèrent échapper Ali, qui se hâta de sortir du palais. Comme il descendait le grand escalier, il rencontra le Gascon, qui n'était guère moins maltraité que son camarade. « Comme tu as la joue droite rouge, » dit le pêcheur. « Je viens d'un endroit où il faisait chaud, » répliqua le poète. « J'ai trouvé Glantine, j'ai voulu lui témoigner ma tendresse. Tu vois les marques qu'elle m'a laissées de la sienne. Je suppose, » continua-t-il, « que tu as été plus heureux que moi. Non, pas trop, » dit Ali. « Doralice a des préjugés. Ta figure en écumoire ne l'a pas séduite. Mon Dieu, » dit le pêcheur, « il ne faut pas juger un homme sur les apparences. Tout écumoire que je suis, j'ai du cœur comme un chevalier. Mais ces filles de roi savent si peu connaître le vrai mérite. Que tu as été mis à la porte. » Et menacé du pal. Le pal, à moi. Aussi, qu'allais-je faire à la cour? Si je n'avais pas fait la sottise de te suivre, jamais je n'aurais reçu un affront pareil. Adieu. Tu pars? Crois-tu par hasard que je veuille attendre les empaleurs? Tout à l'heure, on ne faisait pas attention à moi. J'en ai profité pour prendre la fuite. Mais ce bonheur-là n'arrive pas deux fois de suite. Ah, si jamais on me reprend à vouloir embrasser les princesses. Attends-moi, dit Rimbaud. Nous ne ferons pas long séjour ici. Et ton comté? Bon. C'est Glantine qui voulait être comtesse. Pour moi, je me soucie du comté comme du vent qui souffle. Quand on a du génie, pourquoi chercher la richesse? Tu renonces à Églantine? Comme au comté. Les femmes, mon ami, ne valent pas le diable. On se donne beaucoup de peine pour les satisfaire. On parle, on crie, on rime, on se bat, on se fait casser la tête pour elles. Le premier venu arrive, qui n'a rien fait qu'apporter des bonbons, des gants et de vieux compliments moisis, et vous les enlève à votre barbe, sans qu'elle daigne seulement tourner la tête. Décidément, j'en suis très dégoûté. « Eh bien, dit Ali, si tu veux, nous partirons ensemble. Nous nous retrouverons hors de Grenade. Je vois que tu deviens sage en vivant avec moi. Voilà ce que c'est que de fréquenter la bonne compagnie. » Sur ce mot, les deux compagnons se séparèrent. Pendant ce temps, la belle Corisande, enfermée dans son appartement, attendait avec inquiétude la fin du combat. Menacé de mort par Guéphéros si Roland entrait dans la place, et d'un sort plus cruel encore, si elle restait au pouvoir de Guéphéros, elle ne prévoyait que des malheurs. Un des officiers de Guéphéros, féroce et prêt à tous les crimes, avait reçu l'ordre de la poignarder sans pitié après la mort du fils de Stordilan, et l'impitoyable Sarrasin n'aurait eu garde de manquer à sa consigne. Corisande, absorbée dans ses pensées, ne pouvait s'empêcher de garder quelque espérance. Un héros tel que Roland pouvait-il l'abandonner et ne pas surmonter tous les obstacles? Elle prêtait l'oreille à tous les bruits. Près d'elle, sa vieille nourrice cherchait à la consoler et à l'encourager. Elle la recommandait à la Vierge Marie et à tous les saints du paradis. Tout à coup, un grand bruit se fit entendre et fut suivi de 1000 cris. « Victoire ! Victoire !» Corisande, incertaine, car les fenêtres de son appartement n'avaient pas vu sur le rempart, palpitait d'espérance et de crainte. Bientôt, on entendit résonner des éperons sur le grand escalier du palais. Le Sarrasin qui gardait Corisande reconnut le pas de Roland et tira son sabre. « Ouais, Corisande ? » lui cria de loin le comte d'Angers. Le Sarrasin, au lieu de répondre, se précipita dans l'appartement de la princesse pour exécuter l'ordre du fils de Stordilan et massacrer la princesse. À cette vue, celle-ci comprit le danger et, se jetant à genoux, s'écria « Vierge Marie, sauvez-moi et je jure de me faire chrétienne !» Cependant, le Sarrasin, impitoyable, la saisit par ses beaux cheveux noirs qui couvraient ses épaules de boucles épaisses et soyeuses. Il leva son sabre, tout prêt à couper cette tête admirable, la plus belle qu'ait jamais vue l'Andalousie. C'en était fait de la malheureuse princesse. Tout à coup, Roland parut. Il avait deviné le sinistre dessein du Sarrasin. Il avait couru sur ses pas, il arrivait, mais l'appartement était si grand et Corisande si près de la mort qu'un miracle seul pouvait la sauver. À la vue du sabre levé, Roland poussa un tel cri de menace et d'horreur que le palais tout entier en retentit et trembla sur sa base. Le Sarrasin frémit et fut glacé d'effroi. Il demeura immobile. Roland eut le temps de le rejoindre et d'un coup de Durandal, il détacha le bras de l'épaule. Le sabre et le bras qui le tenaient tombèrent sur le tapis et le Sarrasin laissa échapper la belle Corisande. Cette aimable princesse voulut se jeter aux genoux de Roland, mais le héros la serra sur son cœur avec un tel ravissement de joie que les anges du ciel portèrent envie à son bonheur. Ce fut toute leur explication. « Vous m'aimez donc ?» dit Corisande, en levant sur lui ses beaux yeux bleus, baignés de larmes de reconnaissance. « Vous me le demandez ?» s'écria le chevalier. Et pour la première fois, il osa approcher ses lèvres de celles de la charmante princesse de Grenade. L'arrivée de l'archevêque Turpin et d'Olivier interrompit cette heureuse entrevue. Roland leur présenta sa bien-aimée, et le bon archevêque ne put s'empêcher d'avouer qu'elle était aussi belle que le lys des Cantiques. Pour Olivier, il convint que les Saxons même étaient à 100 pics de Corisande. Cette aimable princesse reçut leurs compliments avec une modestie touchante qui ravit tous les assistants. Roland, obligé de la quitter et de suivre les autres chefs de l'armée, lui donna une garde nombreuse qui avait ordre de ne la quitter ni jour ni nuit, tant l'inquiet chevalier craignait de perdre ce trésor reconquis avec tant de peine. L'amour ne lui fit cependant pas oublier la courtoisie des vrais chevaliers. Il se hâta d'aller rassurer Doralis, qui tremblait pour son royaume et pour sa vie, et qui craignait de devenir la proie du vainqueur. La vue de Roland lui rendit le courage et même l'envie de plaire. Elle le reçut avec de tels élans de joie, mêlés d'un si triste abattement, que le bon chevalier, encore peu aguerri aux pleurs des dames, se sentit attendri jusqu'au fond de l'âme et se reprocha intérieurement sa cruauté passée. « Hélas, seigneur comte, dit-elle, dans quel état vous m'avez quitté et dans quel état vous me revoyez? Et c'est vous qui êtes l'auteur de ma ruine, vous, Roland, que j'ai tant aimé, que j'ai trop aimé peut-être. Hélas, si j'avais eu moins de franchise et moins d'abandon, si j'avais eu moins de confiance dans un héros qu'admirait tout l'univers, si j'avais eu quelque chose de cette réserve savante qui va si bien à d'autres femmes moins sincères et moins aimantes que moi, peut-être serais-je aimée aujourd'hui. Mais non. Imprudente et folle que je suis, égarée par un amour insensé, j'ai jeté mon cœur à vos pieds, ce cœur que tant de puissants rois et de vaillants chevaliers ont désiré en vain. Je n'ai pas voulu, comme Corisande, vous faire acheter le bonheur, et j'en suis cruellement puni. Hélas, hélas, seigneur, le châtiment est juste, mais suis-je seul coupable ? Le mont Roland, entortillé dans les discours de la dame comme un oiseau dont les ailes sont prises dans la glu, cherchait en vain une réponse. Doralis se jeta à ses genoux. Il la releva sur le champ, mais il ne put s'empêcher d'être ému en touchant involontairement ce sein si beau qui s'appuyait sur son bras comme le lierre sur le chêne, cette taille souple et gracieuse et ses yeux si doux et d'un vert d'émeraude qui semblaient demander grâce. Il se sentit gagné peu à peu par une émotion qui n'avait rien de commun avec la passion profonde qu'il sentait pour la belle Corisande, mais qui n'en était pas moins inquiétante pour sa fidélité. Il voulut répondre et ne put que balbutier quelques mots. « Rassurez-vous, madame, je vous rendrai vos états. »« Me rendrez-vous aussi, dit-elle, la paix du cœur que vous m'avez ôtée ?»« Me rendrez-vous, cruel, le frère chéri que j'ai perdu, mon seul soutien de la vie, mon pauvre gai féroce ?» À cette question, Roland demeura plus froid qu'un marbre. L'ombre de Guéferos, maladroitement évoquée par Doralis, venait de dissiper le charme. Il sortit sans répondre un mot, laissant la reine partager entre la douleur que lui causaient les dédains du comte d'Angers et le regret d'avoir perdu son frère. Cependant, Roland, Olivier et Turpin tinrent conseil. « Qu'allons-nous faire de notre conquête ?» demanda Olivier. « Nous y mettrons garnison, » dit l'archevêque. « Nous baptiserons tous les Grenadins, nous leur ferons payer tribut, et si Roland veut être roi, ma foi, je ne m'y oppose pas, il a bien gagné son trône. » Roland se mit à réfléchir. La veille encore, il cherchait un royaume pour Corisande. Celui-ci était vacant et à sa portée. Pourquoi ne pas le prendre ? Mais le souvenir des prières et des larmes de Doralis lui traversa l'esprit. « Non, dit-il. « Il faut laisser Grenade à Doralis, à condition qu'elle se convertira avec tout son peuple. »« Mais, répliqua Olivier, tu cherchais un royaume en Portugal. Celui-ci est tout prêt. Prends-le. » Roland s'y refusa obstinément, et il fut résolu que Doralis garderait Grenade et serait baptisé. En même temps, on expédia des courriers à Charlemagne pour lui annoncer la prise de la ville et les conditions de la paix. le comte d'Angers, après la conférence, alla trouver Corisande et lui expliqua les motifs du refus qu'il avait fait de la couronne de Grenade. Il lui promit en échange celle de Portugal. La belle princesse de Grenade lui prit la main et lui dit d'une voix émue « Seigneur, je ne veux pas de royaume, je ne vous demande qu'un cœur fidèle. » Après quoi, Roland tomba naturellement à ses genoux et protesta qu'il la ferait reine, dût-il massacrer 1 million de Sarrasins. Mais Corisande resta inébranlable dans sa volonté. « Seigneur, un jour vous m'avez soupçonné de préférer l'ambition à l'amour, et j'ai fait ce jour-là serment de n'accepter de vous que votre cœur. » Il fallut se rendre à ses raisons et renoncer à la couronne de Portugal. Le soir, Rimbaud alla voir le comte d'Angers. « Que me veux-tu ? » dit celui-ci. « Seigneur, » dit le Gascon. Il vient d'arriver un accident singulier. Vous aviez donné ordre d'ensevelir les morts, et je veillais à l'exécution de cet ordre. Mais on n'a retrouvé ni Guéferos, ni Don Bernard de Carpio. « On n'a pas bien cherché, » répondit Roland. « Ils doivent être tous deux dans le fossé. »« Ils n'y sont pas, » dit Rimbaud. « Probablement le diable qui est leur ami sincère les a emportés dans ses bras, où ils se sont relevés et ils sont en fuite. » « Eh bien, laisse-les fuir, » dit Roland. « Je suis trop fatigué pour les poursuivre. » Cependant, il fit doubler la garde autour du palais de Corisande. Quelques jours après, les chefs de l'armée reçurent une lettre de Charlemagne qui félicitait Roland de ses victoires et l'engageait à revenir à la cour avec toute l'avant-garde. Enfin, le grand empereur témoignait la plus vive impatience de connaître la belle Corisande, de la faire baptiser, de lui servir de parrain et de l'unir à son amant. « Aujourd'hui, je suis parfaitement heureux, » dit Roland. Hélas, il n'avait jamais été plus près du plus effroyable malheur. Déjà la mort avait les yeux sur lui. La Providence aime à se jouer des desseins des hommes. Le lendemain du jour où Roland avait reçu le message de Charlemagne, toute l'armée se mit en marche pour rejoindre le puissant empereur. En tête et à cheval s'avançaient Roland et la belle Corisande. Olivier et Turpin formaient l'arrière-garde. Ali, qui s'était tenu caché pendant quelques jours pour échapper à la vengeance de Doralice, s'était mis au centre avec le Gascon.